Champ contre champ, le reportage.
Alors le nord, il est...
Alors comment il est déréglé?
Non, plein.
Il est là.
Il est là.
Toi vers l'arbre.
Nous sommes aujourd'hui au collège Jean-Pierre Calor à Nocminé, où la dernière semaine d'école s'accompagne d'une petite nouveauté. Le collège sera désormais doté d'une station météorologique. Elle est en cours d'installation par Bernard Trouillet, qui est membre de l'association Infoclimat. Et l'installation se fait dans le cadre d'un programme qui s'appelle la météo à l'école. Alors bonjour Caroline Corbel, vous êtes enseignante en 5e au collège Jean-Pierre Calor. Expliquez-moi pourquoi vous avez souhaité candidater au programme la météo à l'école.
Donc bonjour, alors nous avons souhaité candidater puisqu'on a la possibilité, donc grâce à des programmes comme Sciences à l'école ou Météo à l'école, de rajouter du matériel pédagogique, donc à partager et à faire découvrir avec nos élèves. Donc on avait la possibilité d'enrichir la liste du matériel que l'on a déjà avec une station météo. Donc j'ai répondu à un appel à projet qui propose aux collèges, lycées, enfin aux écoles de façon générale, d'avoir une station météo au sein du collège, pour nous en tout cas. Donc j'y ai répondu à cet appel à projet avec mes collègues de physique, chimie, SVT et technologie, donc tous les professeurs de sciences. Et sur 80 projets, il y en a 10 qui ont été retenus, et notamment le nôtre, donc à Locminé. C'était intéressant pour Infoclimat, donc l'association qui nous prête ce matériel, puisqu'il n'y avait pas de station météo proche, en tout cas en centre-Bretagne. Eux, ça les intéressait, nous, ça nous intéresse beaucoup aussi. On étudie la météo en 5e notamment, donc on voulait compléter nos cours grâce à cette station météo qui va compléter un petit peu tout ce qu'on fait avec les élèves.
Oui, et là, ça sera pluridisciplinaire, j'imagine, en fait. Dans quelle matière on étudie la météo? Dans plusieurs matières?
Oui, alors nous, en physique-chimie, on travaille notamment sur l'eau de façon générale, les changements d'état de l'eau, par exemple. En SVT également, donc sciences de la vie et de la terre, c'est aussi un sujet sur le cycle de l'eau, le traitement de l'eau. Et il y a aussi justement l'étude de phénomènes météorologiques qui est abordée. Par exemple, moi, en sciences physiques, on parlait du phénomène de mousson. Ben, là, d'avoir une station météo à Locminé, ça va nous permettre aussi de vérifier des phénomènes météorologiques qui ont lieu à Locminé, d'étudier ça avec nos élèves. En plus, sur plusieurs années, parce que l'idée, c'est aussi de faire un suivi, par exemple, de la 6e jusqu'à la 3e, de voir s'il y a des phénomènes météo qui se répètent ou pas. Ou par exemple, voilà, qui s'accélère, on parle beaucoup de réchauffement climatique, de sécheresse aussi, on en parle beaucoup. Donc là, d'avoir une station météo, ça va être peut-être plus concret pour les élèves de voir directement, avec les relevés qu'eux auront effectués, ces différents phénomènes météorologiques.
Et j'ai eu accès à une partie de votre dossier de candidature. C'était intéressant, vous disiez qu'une bonne partie des élèves ici avaient déjà l'envie de se diriger vers les métiers agricoles. Nécessairement, à Locminé, on est en milieu rural, aussi une terre très agro-industrielle. Et donc, c'était aussi une partie de l'argumentaire pour participer à ce projet.
Voilà, exactement. Donc, en fait, étant, on va dire, dans un milieu plutôt rural, c'est vrai qu'on a plusieurs élèves qui se destinent à des métiers dans l'agriculture de façon générale. Voilà, aussi, on a des métiers type paysagiste ou dans l'arboriculture, par exemple. Donc là, d'avoir une station météo, c'est pour aussi leur montrer que bah, voilà, ça va être des données qui sont intéressantes à commencer à exploiter, à étudier pour que par la suite ce sera plus facile, entre guillemets, peut-être des facilités d'étudier quand est-ce que je peux, je sais pas, semer ou préparer mes terres pour telle ou telle chose, quoi. Donc voilà. Mais voilà, je pense qu'il y a des petites choses qu'on commence à leur indiquer, par exemple en termes de pression, de savoir qu'un chiffre, donc la pression atmosphérique, hein, en hectopascal par exemple, qu'on peut mesurer, juste de leur dire, bah, attention, un chiffre, ça peut vous dire s'il va faire beau, entre guillemets, ou pas. Ils ne connaissent pas le baromètre, par exemple, enfin voilà, mesurer une pression. Donc voilà, c'est des petites choses sur la météo, de façon générale, qu'on voudrait un petit peu leur présenter. Et voilà.
Est-ce qu'il y a un protocole sur l'année qui va venir d'utilisation de cette station avec les élèves? Comment ça va se passer?
Donc nous, on commence directement à travailler sur la météo en 5e, aussi bien en sciences physiques, physique-chimie, donc en SVT. Et aussi, je n'ai pas parlé de la technologie, mais en technologie, ils peuvent aussi reprendre les données pour, par exemple, présenter de façon informatique, faire des tableaux, des graphiques. Enfin voilà, c'est des petites choses, on va dire, en sciences du numérique, apprendre à utiliser des données et à en faire quelque chose, à les présenter, ces données. C'est quelque chose qu'ils vont faire également. Et donc nous, oui, c'est quelque chose qui va être présenté aux élèves dès le début de l'année. Peut-être en 6e aussi, on va voir comment ça fonctionne. Nous aussi, il faut qu'on se l'approprie, hein, cette station météo qui vient d'être installée, donc on va voir tout ça. Et potentiellement proposer aussi un petit atelier scientifique aux élèves qui sont intéressés pour venir justement récupérer les données, s'occuper de la station, comprendre un petit peu plus précisément comment elle fonctionne.
Comment est financée alors cette station? C'est via le programme La Météo à l'école? Vous avez eu des financements particuliers pour que ça ne vous coûte rien, ou c'est à la charge de l'établissement?
Alors oui, c'est un appel à projet, donc pour nous c'est vrai, ça ne nous coûte rien comme vous dites, c'est vrai. C'est prêté par l'association Infoclimat, donc nous on installe la station, on va s'en occuper évidemment, toujours en lien avec Infoclimat, et du coup nos données aussi sont partagées. Donc l'association va utiliser nos données qui seront donc accessibles à toutes les personnes qui veulent récupérer les données de la station du collège. Donc il suffit d'aller sur le site d'Infoclimat, de retrouver notre station à Locminé, donc au collège Jean-Pierre Caloc, et vous pourrez réutiliser vous-même les données qui seront mesurées par cette station.
Dans le cadre du programme La Météo à l'école, je notais que les enseignants bénéficient d'une formation à l'École nationale de météorologie. Est-ce que ça va être votre cas ?
Oui, oui, alors c'est pas encore programmé, mais oui, sûrement, et on commence déjà à avoir des visioconférences, justement, pour un petit peu partager ce que l'on fait avec ces stations météo. Si on a des problèmes techniques aussi, ils nous aident lors de ces visioconférences avec le programme météo à l'école.
Oui, j'ai noté que vous aviez déjà un parrain à l'Observatoire de Paris, puisque vous travaillez sur la Lune.
Oui, c'est vrai. Donc, le programme de physique-chimie, il est assez dense. On a aussi évidemment toute une partie sur le système solaire, comprendre le fonctionnement, ou en tout cas comment s'organisent les planètes. Donc la Terre, évidemment, et puis son satellite naturel, donc tel que la Lune. Et donc on a aussi un projet, un parrain à l'Observatoire de Paris, donc, qui est venu durant cette année scolaire pour présenter son travail au sein de l'Observatoire, donc à Meudon. Et ça, c'était dans le cadre d'une semaine PAE. En fait, c'est une semaine où les élèves ont appris, on va dire, un petit peu différemment. Et le thème, c'était la semaine des étoiles. Donc voilà, toute une semaine en lien avec l'astronomie au sein du collège pour les élèves de 4e.
D'accord.
Donc voilà, d'où le parrainage avec l'Observatoire de Paris.
Donc là, le capteur, bon,
il est bien. En gros, il est à 2 mètres à peu près, là, je pense.
Oui, oui, oui.
C'est très bien. Ouais.
Le capteur, là, il est bien placé pour vous?
Oui, oui. Il faut que ça soit à plein sud, là.
La cellule, là, c'est bien.
C'est dans l'alignement du... Je vais regarder.
Ouais, c'est pas mal.
Oui, oui, c'est bien.
Bernard Trouillet, est-ce que c'est la première station météo que vous installez à Infoclimat dans un établissement scolaire en Bretagne?
C'est la deuxième que j'installe cette année en Bretagne. J'en ai installé une également dans le cadre de météo à l'école, donc à Hennebon.
Alors, est-ce que vous pouvez me présenter un peu cette station, comment elle fonctionne, comment elle est installée, quelles données elle produit exactement?
Donc, c'est une station qu'on appelle semi-professionnelle, qui permet en fait de transmettre sur Internet, là en l'occurrence sur le site Infoclimat, donc les données de température, d'humidité, les données également de pluviométrie, et puis l'anémomètre et puis la girouette, donc pour la direction du vent. On peut éventuellement ajouter des capteurs supplémentaires, des capteurs UV et d'ensoleillement.
Alors semi-professionnel, ça veut dire que bon, c'est évidemment du bon matériel, mais monsieur, madame, tout le monde qui souhaite avoir une station dans son jardin peut se procurer ce type de matériel?
Ah oui, il peut tout à fait se procurer ce type de matériel. Bon, la station qu'on a installée ici, c'est le modèle de base. Il faut compter dans les 1000 euros en comptant la station plus la connectivité, enfin le logiciel qui va avec. Donc en moyenne, c'est 6000 euros. Effectivement, n'importe quel particulier peut installer chez lui cette station-là, quoi. Et il peut éventuellement, si elle remplit les conditions d'installation, donc rejoindre le réseau de stations Infoclimat, qu'on appelle Statik.
Quelles conditions sont optimales pour installer ce genre de station? En termes de hauteur et d'emplacement, en fait, que ce soit là dans ce collège, mais puis dans un jardin, par exemple.
Bon, évidemment, il faut que ça soit une surface en herbe, hein, donc pelouse, gazon, herbe rase. Et en principe, il faut qu'il y ait un minimum d'1,50 m au niveau du sol pour la partie des capteurs température et humidité. Pour l'anémomètre, l'idéal, ça serait de l'installer à 10 mètres. Les données de vent, en général, Météo France, il les relève à 10 mètres. Mais bon, effectivement, les particuliers, on n'a pas toujours la possibilité de mettre un mât à 10 mètres. Donc, on les installe en général en haut de notre mât qui est à environ 2,50 m, 3 mètres. Donc là, en fait, on dit qu'elle est installée dans les normes agro. Alors sinon, il faut que le terrain aussi soit suffisamment dégagé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 20 mètres de chaque côté de dégagement, qu'il n'y ait pas d'arbres trop près, des ombres portées, enfin ainsi de suite, quoi. On montre aux professeurs les opérations courantes à mener. Bon, ce qui arrive, c'est souvent, c'est surtout après une longue période de temps sec. Quelquefois, il y a le pluviomètre qui se bouge, donc bon, bah, il est intéressant de savoir comment le déboucher pour avoir des données correctes de pluviométrie.
Et donc là, il y a des petits picots, c'est pour empêcher les oiseaux d'aller trop près de la station. Oui.
Ouais, voilà. Oui, parce que les oiseaux, ils aiment bien. Quelquefois, j'ai même vu, moi, des tourterelles vouloir faire leur nid dessus. Quoi.
Ah oui, alors là, c'est joli, mais c'est contre-productif.
Bon, à Taupon, j'ai des pigeons qui viennent régulièrement se poser sur la girouette.
La girouette qui est un outil de mesure, enfin...
Oui, qui nous indique la direction du vent. Actuellement, on voit que le vent vient plutôt du sud, quoi, sud-ouest, on va dire. Puis donc, les coupelles en dessous, bah, ce sont celles qui, en fonction de leur vitesse de rotation, donc ils nous indiquent la vitesse du vent, quoi.
Et alors, comment les données sont transmises par la suite et donc, il y a besoin d'une connexion Internet?
Oui, évidemment, il y a des capteurs qui sont reliés à une carte électronique dans le boîtier blanc, hein, qui est essentiellement alimenté par un panneau solaire. Et qui transmet donc ces données-là sur une console qui est reliée à la box Internet. Alors maintenant, on commence à installer des stations autonomes, parce que la difficulté d'Internet, surtout dans les établissements scolaires, c'est qu'il y a des pare-feux, donc il faut autoriser l'ouverture de ports, il faut que les adresses IP soient reconnues. Enfin, donc, on va aller de plus en plus sur l'installation de stations autonomes. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise des réseaux un petit peu équivalents à des réseaux 3G ou 4G qui permettent de s'affranchir en fait des connexions Internet locales. Quoi.
Voilà. C'est ça qu'on vient de dire. Très bien. Non, c'est bien prévu.
Non, mais je suis sûr d'avoir une boussole.
Donc là, ce que je vais faire,
une vraie boussole.
Comme il était chez moi, j'ai changé l'adresse. Je vais le remettre à l'adresse nord standard. Comme j'ai ma station.
Ah, bah j'en ai une dans mon sac. Des petites, mais c'est...
Vous-même, vous habitez à Taupon, vous avez une station chez vous, j'imagine.
Oui, bon, avant j'étais dans l'Oise, donc elle m'a suivi à Taupon. Donc bon, en fait, on peut en suivre les données de Taupon. Depuis 3 ans. Quoi. Comme j'étais passionné, donc à l'âge de la retraite, j'ai adhéré à l'association InfoClimat et puis ça m'a permis un petit peu de suivre ma passion. Et dans le contexte actuel, il y a tout intérêt à suivre ça parce que vu l'évolution du climat, c'est à la fois passionnant et puis on a besoin quand même d'avoir le maximum de données pour voir l'évolution du climat. Hein.
InfoClimat est une association depuis 2003, mais le site existait déjà avant. Donc c'était un concept, une association qui a été créée vraiment par des passionnés de météo.
Ah oui, tout à fait. Au départ, c'était par des passionnés de météo. Donc la plupart étaient des étudiants, d'ailleurs. Hein. C'est venu surtout au moment après les fameuses tempêtes de 99. Donc ils ont créé un petit site qui s'appelait OrageNet, je crois, au départ. Et puis après, c'est devenu InfoClimat en 2001. Et puis, vu l'intérêt que ça portait, c'est devenu, à partir de 2003, une association de loi 1901.
Donc, InfoClimat, c'est avant tout un site internet avec plus de 6 milliards de données collectées et valorisées. Donc, il propose le partage d'observations et d'analyses entre passionnés. Et donc, c'est un peu une sorte de Wikipédia de la météo. Et aussi, parle de science participative parce que... tout à chacun peut consulter le site, puis même en fait le nourrir de données.
Oui, tout à fait, oui. On a plus de 20 ans de données, donc on peut avoir une base de données très importante et qui est très intéressante déjà pour étudier la climatologie, l'évolution du climat. Quoi.
Et cette base de données, elle est possible aussi grâce aux stations que InfoClimat installe elle-même ?
Effectivement, les stations du réseau InfoClimat permettent de récupérer ces données, mais bon, stocker ces données, ça a quand même un coût. Hein. Il faut derrière des serveurs. Et le coût des serveurs, c'est à peu près 15 000 euros par an. Jusque-là, c'était essentiellement financé par des adhésions et puis également donc des dons, du mécénat. On a un principal mécène qui est la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône. Voilà. L'année dernière, on était à plus de 2200 adhérents. Et cette année, on est à peu près sur la même courbe, en gros. Hein.
Sachant que ce nombre-là ne cesse de croître, hein, puisque vous étiez seulement 600 il y a 10 ans.
Oui.
Vous avez gagné presque 500 adhérents en un an. Alors, pourquoi cet engouement et est-ce que aussi vous observez beaucoup d'adhésions en Bretagne?
Ah oui, il y a beaucoup de passionnés en Bretagne. Hein. C'est une région qui est assez bien couverte en règle générale au niveau des stations météo. En plus, comme je le disais tout à l'heure, y a quand même une certaine synergie avec Météo Bretagne. Donc, dans l'ensemble, c'est bien couvert. Hein. Donc, pourquoi il y a eu une augmentation? Il y a plusieurs choses. Il y a l'attrait par rapport aux événements climatiques aussi. Hein. On a remarqué que quand il y a des événements climatiques importants, des périodes d'orage, ou par exemple en octobre 2020, la tempête Alex, on remarque qu'il y a un peu plus d'adhésion. Et puis, on a plus communiqué sur les médias. Par exemple, on a une rubrique importante qui est PhotoLive, où chacun a la possibilité de poster des photos. Et bon, certaines photos sont reprises par les bulletins de météo de France Télévisions ou de BFM. Et plus on a d'adhérents, plus on a de fonds, effectivement. Ça nous a permis d'ailleurs, depuis l'an dernier, d'embaucher un salarié pour le développement du site. Quoi.
Alors, revenons un petit peu à la base, comment sont produites les données météo? C'est Météo France qui a le plus grand nombre de stations météorologiques. Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin, en tout cas, de ce réseau parallèle ou plutôt complémentaire via InfoClimat?
Alors, ce qui se passe, c'est que Météo France, ils ont leur réseau de stations météo, mais qui ne sont pas toutes libre d'accès. Il est important pour nous vraiment que le particulier, tout à chacun, puisse avoir accès à ces données-là, connaître son climat, quoi.
Il y a combien de stations environ qui sont gérées, on va dire, par InfoClimat?
Sur le réseau InfoClimat, il y a à peu près maintenant 800 stations. Hein, donc c'est
en France.
En France.
Et est-ce qu'il y a des endroits en Bretagne qui sont peu couverts, où il y aurait besoin d'installer des stations, justement, où on n'a pas assez de données?
En Bretagne, bon, c'est vrai qu'on a un partenariat aussi avec l'association Météo Bretagne. Donc, pour essayer d'avoir un réseau bien homogène, on va dire, on collabore ensemble pour essayer de combler des trous. Bon, il y a encore des zones, effectivement, notamment le secteur sud-est du Morbihan, sud de l'Ille-et-Vilaine, et puis le nord de la Loire-Atlantique, où là, il y aurait besoin éventuellement encore d'installer des stations, une ou deux stations, quoi, pour avoir un petit peu un maillage un petit peu plus complet.
Et est-ce que parfois vous proposez à des particuliers qui n'y connaissaient absolument rien de les aider justement, s'il y a un endroit qui est particulièrement stratégique, de fournir, éventuellement de prêter une station, de l'installer chez des gens, de les aider à la maintenance?
Il y a beaucoup de stations qui sont achetées par des particuliers, hein, qui proposent de rejoindre le réseau InfoClimat. Et nous, l'association InfoClimat, on installe des stations justement sur des zones qui sont plus couvertes. On fait des appels à candidature pour des gens qui sont intéressés, qui ont du terrain, qui répond aux normes d'installation. Donc on fait des appels à candidature et puis là, on a des particuliers. Souvent, ce sont évidemment des agriculteurs, enfin, qui nous proposent éventuellement du terrain pour installer une station.
Est-ce que vous collaborez avec Météo France? Enfin, plutôt, est-ce que Météo France utilise les données d'InfoClimat?
Il les consulte, hein, je pense. Oui. On peut avoir des stations qui sont installées dans des endroits que nous, on considère stratégiques, où eux ne sont pas implantés. Par exemple, vient à l'esprit la station qui est actuellement au Mont-Ventoux. Bon, c'est pas une station comme celle de Locminé. Hein. C'est du matériel professionnel, hein, qui coûte beaucoup plus cher. Hein. C'est du matériel qui est homologué, enfin Météo France. Donc, c'est vrai que c'est un site très particulier, avec des conditions dantesques. Hein. Le Mont-Ventoux, tout le monde connaît. Hein. Depuis 2015, je crois, oui, c'est ça. Donc, on a installé une station au Mont-Ventoux. Donc, et cette station, en fait, je pense que Météo France, il consulte les données, ça j'en suis certain. Et puis également, un an après son installation, elle a servi notamment à une étape du Tour de France qui allure en haut du Mont Ventoux. Il y avait des rafales de vent, je crois, qui étaient à plus de 110 km/h. En voyant les données de cette station-là, l'étape, au lieu de monter jusqu'au sommet, elle s'est arrêtée au chalet en dessous. Hein, donc, voilà.
Depuis que vous êtes en Bretagne, justement, depuis 3 ans, via la station qui est de votre domicile, et puis plus largement celles qui sont installées par InfoClimat que vous étudiez sur le site internet, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces tendances-là de changement, voire réchauffement climatique? C'est flagrant au niveau des étés, de la sèche.
La plupart des années les plus chaudes se situent après 2010. Hein. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques années, il y a des étés comme 2021 où l'été était un petit peu moins chaud, mais en règle générale, ce qu'on remarque, c'est que ça se réchauffe de plus en plus. Enfin, moi, depuis 3 ans que je suis ici, il y a eu l'été 2020 qui était vraiment très chaud. Bon, 2021, c'était un peu plus normal, on va dire, même si la plupart des gens ont considéré que ce n'était pas un été extra. Et puis 2022, je pense que tout le monde se rappelle de l'été 2022 avec quand même 3 canicules. Et donc ma station à Taupon, elle a atteint 40,6 degrés. Et ça, je ne pensais jamais qu'en venant en Bretagne, que je pourrais dépasser les 40 degrés. Hein.
Pour cet été, est-ce qu'il y a des prévisions, une tendance qui pourrait rappeler l'été précédent?
Pour l'instant, non. A priori, il n'y a pas vraiment de tendance sur des grosses canicules comme l'année dernière. Par contre, ce qui est différent cette année, par exemple, on a un mois de juin, le deuxième plus chaud mois de juin, c'est que en fait, cette année, au mois de juin, il n'y a pas eu d'extrême, mais par contre, il y a eu une constante élevée des moyennes, quoi. Donc c'est vrai que d'une année sur l'autre, il peut y avoir des différences, mais bon, pour l'instant, on va dire que l'été, on espère en tout cas qu'il ne sera pas aussi chaud que 2022. Par contre, on est plutôt dans une tendance à un été apparemment sec quand même.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris putois. Allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contre un coucher d'or, quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvré tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari en donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.